Réflexion d'un optimiste par M. Dupont-White. Chapitre 4. La France n'a ni les vices ni les qualités qui composent l'instinct révolutionnaire. De guerre lasse, allez-vous dire qu'il y a dans ce pays un besoin de sévir et de spolier, un appétit naturel de sang et de vol qui s'éveille de temps à autre et qui, selon vous, est le fait ou l'idéal des révolutions. Voilà une imputation énorme et cruelle, dont la preuve n'apparaît nulle part. Tout proteste à l'encontre, et nos sentiments, et nos statistiques. À lire les statistiques, on se réveille parfois. Et l'on est étonné de ne pas voir, en autant de révolutions, un redoublement de crimes, tout comme on voit, en temps d'épidémie, l'accroissement des décès. Cela jette un certain jour sur le principe de nos révolutions, qui n'est pas, il faut le croire, absolument et purement morbide. On a déjà eu l'occasion de le dire. S'il était vrai que ce pays aima les révolutions et les aima pour ce qu'elles ont d'immoral, ce pays serait moralement inférieur aux autres. Il n'aurait pas que cette perversion. Quand la conscience d'un peuple se dégrade sur un point aussi capital, il y paraît ailleurs. Et ce peuple est atteint et malade partout. On y verrait plus de malfaiteurs, plus de bâtards, plus de faillis, plus de mendiants, plus de folies et de suicides que partout ailleurs. On y coudoirait à chaque pas l'improbité du marchand, la simonie et le péculat, la vénalité de tout ce qui ne doit pas se vendre. On y distinguerait nul honneur ni commercial, ni politique, ni militaire, nul amour désintéressé des choses d'esprit, nulle prévoyance et nulle épargne dans les familles. Or, la statistique ne nous apprend rien de pareil sur la société française. On y voit un progrès, une ascension de toutes les classes, par des efforts où le travail, la privation, l'épargne, ont une grande place. À tout appel, le capital paraît, et l'on sait d'où il vient, de quoi il témoigne. Ceci est à l'honneur des classes rurales. Cette large et solide base sur laquelle nous sommes assis, ce fonds inépuisable des emprunts publics, de l'armée, de la bourgeoisie. Ajoutez que l'esprit de ces castes défuntes s'est perpétué dans certains services publics, armées, magistrature, enseignement, église, qui sont les successeurs des castes. L'honneur où elles excellaient est devenu la conscience publique, du même pas que le privilège des castes est devenu le droit commun. En un mot, rien ne montre dans la société française aujourd'hui une société inférieure, soit à son passé, soit à ses voisins. Vous oubliez, me dira-t-on, que l'humanité est inconséquente, illogique, dans le mal comme dans le bien, que les mauvais penchants d'une race peuvent se cantonner en quelque sorte et demeurer sans effet général sur les caractères, sur les conduites, que le sens moral de la France est égaré sur un point seulement, celui du communisme, c'est-à-dire du profit matériel et populaire attiré des révolutions, que l'on ne peut attribuer un autre projet, un autre sens à l'insurrection de juin 1848 et à la Commune de mars 1871. Soit, je réduis mes observations et mes inductions au point qui m'est signalé comme le siège unique de la maladie. Mais ce point est grave. Cette tâche est de celles qui s'étendent, qui rayonnent. Si les instincts français aspirent au déplacement de la propriété, ce qui est le malin projet dont on les accuse assez clairement. Il y a là un insigne oubli du tien et du mien. Et vous pouvez tenir pour certain qu'un peuple où les révolutions seraient considérées comme une manière d'acquérir, fort imprévue par le code civil, ajoutée à la vente, à la succession, à la donation, serait tout au moins un peuple de banqueroutiers frauduleux, de gérants de l'osifs, de tricheurs à tout jeu, de faussaires en toute écriture, un peuple de voleurs enfin. Encore une fois, rien ne témoigne parmi nous d'une telle émancipation des consciences. Il y a des documents officiels pour peser sur ce point comme sur tout autre l'état de la moralité publique. Or, sur ce point, nulle aggravation ne se fait connaître. C'est que le principe n'en existe pas. L'insurrection de juin 1848 n'a pas le sens qu'on lui prête, celui d'une préméditation contre la propriété. J'en dirai autant de la Commune qui a éclaté en mars 1871 à Paris, qui aurait pu piller la Banque de France et qui, après tout, n'en a rien fait. La vérité est que, quand un peuple a pris les armes, il les reprend une fois ou deux, parce qu'il n'est pas en lui de s'apaiser tout d'abord, et que l'émotion d'un jour terrible, ajoutée à la permanence de ses griefs, c'est-à-dire de sa misère, se propage encore pendant quelque temps. Cela est naturel, historique, comme nous le savons de reste, et s'explique très bien sans l'hypothèse extrême d'une spoliation voulue et entreprise par les masses. Il ne reste plus qu'à prévoir une dernière hypothèse. Les révolutions et l'esprit révolutionnaire de la France ne seraient-ils pas par hasard l'excès et la déviation de quelques grandes qualités? Supposez un peuple spirituel, audacieux, entreprenant, où déborde l'intelligence et la volonté. Ce peuple aurait dans ses mœurs privées du caprice et même des vices. À coup sûr, il aurait en politique le goût des changements, des essais où naissent les révolutions. Mais la France n'est pas ce peuple. Encore une illusion. Le portrait que vous venez de faire là serait plutôt celui de la race anglo-saxonne. Tout autre est la France. Si elle avait le tempérament que vous venez de supposer, il y en aurait trace ailleurs. On le reconnaîtrait dans toute son histoire. On ne verrait que le français soit au XVIe siècle pour inventer la réforme de Luther, découvrir des mondes nouveaux, des mers nouvelles, soit de nos jours pour se répandre en exploration, en émigration ou colonie, à la recherche de l'or, au détroit polaire, au centre de l'Afrique, au sommet de l'Himalaya, aux sources du Nil et du Niger, à l'affût des grands singes. Mais le fait est qu'on ne le voit guère à pareille œuvre. Ainsi, vous ne montrez nullement par quelle qualité ou par quelle dépravation la France aurait l'instinct révolutionnaire. Restent nos révolutions. Mais les gouvernements peuvent tomber sans qu'on les renverse. En cas de suicide, par exemple, par la défaillance et l'abandon d'eux-mêmes, quelquefois par témérité. Tout suicide est un acte de folie, disent les médecins aliénistes. Or, je vous le demande un peu, qui sera fou? Qui sera monomane si ce n'est un gouvernement français, héritier d'une idée fixe qui est la prépondérance, l'omnipotence immémoriale du pouvoir exécutif? J'ajoute qu'on peut renverser les gouvernements sans y prendre plaisir par le seul effet d'une nécessité bien sentie. D'une manière générale, on peut donner quelques bonnes raisons de l'instabilité des gouvernements français. Il en est jusqu'à quatre. Nos gouvernements sont fragiles. Premièrement, parce qu'ils ont contre eux une réputation détestable, une véritable suspicion acquise et méritée pendant tout l'Ancien Régime. Deuxièmement, parce qu'ils sont trop puissants, chargés de trop de choses, âmes ou intérêts, par où ils dépendent d'une foule d'inimitiés et parcourent une immense carrière de bévues imminentes. Quand le gouvernement est un homme, il ne peut porter le poids des fautes qu'il est exposé à commettre. C'est demander à un peuple trop de patience, à un homme trop d'infaillibilité. Troisièmement, parce que ce pays agite toutes les questions à la fois, libéralisme, questions sociales, questions extérieures, et que ce serait merveille si le gouvernement avait sur toutes une réponse agréable à tous. Quatrièmement, parce qu'il n'y a pas, comme autrefois, des castes et des ordres pour s'identifier au pouvoir, à ce point de le maintenir en ses ébranlements ou de le relever en ses chutes. Il faut remarquer surtout, parmi les causes qu'on vient d'énumérer, celles qui figurent en premier lieu. Les gouvernements ont les sujets qu'ils méritent, qu'ils ont élevés et façonnés par leurs exemples. De grands suspects, de grands responsables, tels sont les gouvernements. À l'aspect d'un pays qui a l'humeur frondeuse et malcontente, où l'autorité est en défaveur, où le respect est rare, où la raillerie est toute prête sur les personnes publiques, tenez pour certain que ce peuple ainsi fait est l'œuvre de son gouvernement. Le pouvoir est responsable de tout, notamment de l'esprit et des mœurs que vous voyez dans un pays. Le respect est perdu, dites-vous. Non, il n'est peut-être qu'égaré, faute de savoir où se prendre et de rencontrer le respectable. La méfiance est naturelle à l'égard du gouvernement dans un pays qui a subi longtemps des dominations mauvaises. Parmi nous, tant d'avanies et de brutalités officielles dont se compose notre histoire ont créé des sentiments qui survivent à leur cause. On peut même s'étonner que cette tradition ne soit pas plus violente et plus implacable. Dans d'autres pays, encore plus mal gouvernés, il faut croire, ces sentiments allaient plus loin encore. En Italie, par exemple, ce n'était pas seulement le conspirateur, l'insurgé, l'ennemi du gouvernement qui était en honneur, mais le bandit, c'est-à-dire l'ennemi de la société elle-même. Que voulez-vous? La propriété était si mal acquise et si mal répartie. La société était si mauvaise que, prenant les armes contre elle, on avait pour soi la faveur publique, une connivence et presque une complicité de tous. On revenait des galères sans autre stigmate qu'une brûlure à l'épaule. Tout cela, les gouvernements n'ont qu'une manière de le corriger, qui est de se corriger eux-mêmes. Quand ils ont déformé et dépravé un peuple à force de mauvaise éducation, c'est à eux de le redresser par de nouveaux exemples. La France compte une province où ces mœurs italiennes auxquelles on faisait allusion tout à l'heure ont duré longtemps. Rien n'est plus connu que le banditisme et la vendetta des Corses. Or, savez-vous d'où vint l'amélioration que l'on y remarque aujourd'hui? De la loi française et de la justice française. Elles n'y parurent pas tout d'abord dans leur plénitude. C'est seulement en 1826 que le jury fut appliqué à la Corse. Mais à partir de cette époque, l'équité des procédures et l'autorité des châtiments gagnèrent cette population. L'exemple et la pratique du gouvernement émoussa les violences, détendit les haines et rendit au crime sa honte naturelle. Par où l'on voit dans les faits ce qui est évident en soi-même, c'est-à-dire qu'un gouvernement a les sujets qu'il mérite, que les ayant fait vicieux, son premier soin doit être de réformer en lui-même le vice générateur et contagieux. Ainsi, rien n'est moins vrai que cette vraisemblance d'un esprit français léger, subversif, révolutionnaire enfin. Il faut avoir la passion du lieu commun et de la surface pour s'en tenir à cette grossière apparence. Ouvrez donc ce peuple et son histoire. Il est catholique, il est monarchique, il est centraliste, il est traditionnel, il a toutes les fibres et tous les organes qui enracinent une société, qui l'attache et la dévoue au passé, pour ainsi dire. L'effet de cette humeur, c'est qu'il supporte trop longtemps des dominations insupportables. C'est qu'il accumule ainsi, par un excès de patience, des trésors de colère qui s'épanchent quelques jours en catastrophes sans mesure. Mais cela fait, il s'empresse à relever et à refaire tout ce qui tombe, tout ce qui lui échappe du gouvernement. Il ne fait que traverser les révolutions. Il a hâte de se rasseoir dans l'ordre public et de créer un pouvoir, quelquefois tout pareil, au pouvoir qui vient de s'abîmer. Chapitre 5. La France montre dans toute son histoire une force de convalescence et de vie qui s'exprime par le besoin de gouvernement. Ce besoin de gouvernement, ce goût de l'ordre et de l'autorité, est la plus forte marque en ce pays d'une vitalité puissante, c'est-à-dire d'une société robuste. Car la vie pour les hommes, c'est la société. Et ce qui fait la société, c'est l'ordre. Et ce qui fait l'ordre, c'est le gouvernement. En France, la société se retrouve et se renoue dans toute sa cohésion, dans toute sa discipline, et même dans tous ses fruits, après les secousses les plus violentes et les plus désastreuses. Elle est même d'autant plus solide, d'autant plus productive, qu'elle a été plus ébranlée et plus appauvrie. La réaction vitale, ou plutôt sociable, se mesure à l'action morbide et prend une intensité d'autant plus réparatrice que le mal a été plus profond. La raison décisive de croire à un avenir français, raison historique, c'est une force de convalescence qui nous est particulière. Un besoin de vivre quand même, une aptitude à renaître qui triomphe de tout mal et même de toute inquiétude, de tout remords. Ce pays n'a peut-être pas grand sens et grande faculté de combinaison, mais il a ce qu'il faut, travers ou qualité, pour n'être pas accablé de ses fautes et pour se remettre à vivre, à espérer et entreprendre comme s'il était infaillible, comme s'il avait parole de la fortune et de la providence. Après la faute, je ne dis pas après le crime, ce qu'il y a de plus mal avisé, c'est le remords, c'est-à-dire un état de doute et d'obstacle intérieur où l'on n'avance à rien. La France ne fut jamais de cette humeur. Elle s'est relevée de ses guerres de religion en 10 années de Henri IV. Vous me direz qu'en ces temps, il y avait la foi, un fond capable de tout restaurer en fait de morale et de discipline. Cela est bon à dire. Le fait est qu'Henri racheta son royaume autant qu'il le reprit. Les plus fameux ligueurs se vendirent l'un après l'autre, eux et leur place, tels que Brancas et Rouen. Si ce pays avait le souvenir de toutes les occasions manquées, de toutes les bévues commises, de toutes les fortunes ratées dont son histoire est pleine, il n'oserait bouger. Il demeurerait inerte sous le maléfice de ses souvenirs. Mais il oublie le passé. Il ne sait pas son histoire. Il s'élève d'un bond au-dessus de toute inquiétude et de tout remords, et se met à vivre, facili feminarum credulitate ad gaudia, comme si les choses étaient entières, suivant une locution du palais, ou comme si le monde s'ouvrait devant lui pour la première fois, certaines peintures de Milton, où l'on voit nos premiers parents au sortir de l'Éden. World was all before them. À quelque chose, la légèreté est bonne. Mais la France, est-elle légère? J'en doute fort. La France est un pays haineux, nullement léger dans ses antipathies, très profond dans ses rancunes, extrêmement rageur. Sur ce point et sur bien d'autres, je me défie des apparences, des préjugés et de ces réputations toutes faites qui sont quelquefois très mal faites. Il est facile d'énumérer les désastres militaires, les erreurs, ou même les énormités d'esprit et de conduite qui s'accumulent entre le Rhin, les Alpes et les Pyrénées pour en tirer un jugement défavorable au naturel de la race, au génie de la France. Mais s'il y a tant de choses en France pour la fantaisie et la destruction, d'où vient le grand rôle de ce pays? Comment expliquez-vous sa fortune, ses succès d'esprit et d'épée, cette magistrature, comme dit M. de Maistre, que nous exerçons sur le reste de l'Europe? Voilà un pays étrangement fait où se rencontre tout ce qui peut appauvrir une nation, dégrader son esprit, l'a ruiné corps et âme, et qui néanmoins n'a cessé de monter sur l'horizon avec un éclat et une force reconnue de tous ses ennemis, de tous ses détracteurs. Pourquoi, sous l'Ancien Régime, avec un air asservi, a-t-elle porté les moissons intellectuelles de la liberté? Pourquoi, de nos jours, avec une mine révolutionnaire, a-t-elle au plus haut degré tous les biens d'une société paisible et régulière, richesse, commerce, littérature, et même la victoire longtemps fidèle. En face de tout ce passé, il est permis de croire qu'elle va peut-être continuer à vivre comme elle a vécu depuis 89. Quoi qu'il en soit, nous sommes conduits à chercher le secret de nos destinées ailleurs que dans le naturel de la race, et surtout que dans un trait de ce caractère qui serait le goût des révolutions, un appétit de gouvernement nouveau. Don Juan, le Don Juan de Molière, trouvait aux inclinations naissantes un charme inexprimable. On ne peut pas dire que la France soit entraînée par quelque libertinage de cette sorte vers les dominations nouvelles. Pour les effets si variés, pour les contrastes frappants qu'on dénombrait tout à l'heure, il ne peut y avoir une cause seulement, qui serait le naturel de la race. En général, on peut reconnaître trois causes d'un peuple. Premièrement, le naturel. Deuxièmement, l'histoire, le tour des événements. Troisièmement, le milieu, c'est-à-dire le climat, la configuration du territoire. Or, je reconnais et j'accuse dans le sort de ce pays bien plus le tour des événements que le naturel de la race. Je vous dirai tout d'abord, n'accusez pas la France de servilité monarchique. Il n'y a rien de servile dans le bien qu'elle a voulu si longtemps à ses monarques, mais une affection, une complaisance, peut-être une gratitude envers le seul pouvoir qui, au Moyen-Âge, ne fut pas purement égoïste et oppressif. Comme ce pays obéissait volontairement, il ne se dégradait pas dans son obéissance. Conservant intacte sa dignité, il a produit ce que vous savez, et cela dès le Moyen-Âge, dans le domaine de l'art, de la science et de la pensée. Comment ce pays n'aurait-il pas aimé la royauté, les gouvernements personnels et même le pouvoir absolu? Il est ce qu'il est par la grâce de ce passé qui, après tout, l'a élevé très haut parmi les nations modernes. Seulement, il a de la peine, sous cette influence, à se faire libre, à se gouverner lui-même, selon l'exemple qui lui est donné par les sociétés modernes. Ces sociétés, c'est de l'Angleterre, si nous remontons au Moyen-Âge, nous voyons l'Angleterre affreusement opprimée par ses rois. Tout lui est venu de là. Comme cette oppression pesait sur les nobles et sur les prêtres, classe qui partout ailleurs était libre et même souveraine à cette époque, c'est ce qui a sauvé l'Angleterre. Sa noblesse a revendiqué pour elle et pour le reste du pays quelque chose comme des droits. La noblesse a pris là un rôle salutaire et magistral. Elle est devenue une classe d'État. Elle a acquis les qualités de gouvernement. Elle a fondé ainsi un gouvernement public et non pas personnel. Ce qui est le fait, ce qui est la notion propre de la liberté. Avec le temps, les qualités politiques de l'aristocratie anglaise sont devenues des qualités nationales, tout comme les qualités de la chevalerie et des parlements sont descendues de ce type, de cette hauteur, dans l'âme de notre armée et de nos juges. Ce qui s'est passé là, chez nous, est précieux. Voilà de grands services publics bien exécutés. Mais cela ne fait pas un peuple libre. Nous avons une lacune qui tient au néant de notre passé dès qu'il est question de liberté politique, de classe politique, de choses publiques, ressenties et gouvernées comme telles par l'ensemble de la nation ou par certaines classes de la nation. Tel est le malheur de cette lacune, que nous ne pouvons être libres de cette manière aisée et puissante qui appartient aux Anglais. Mais en même temps, par la présence, par l'affluence des notions et des revendications qui caractérisent un pays avancé et policé entre tous, nous ne pouvons être étrangers au gouvernement de notre pays. Voici comment la situation s'est dessinée. Comment le problème s'est traité depuis 1989. Nous n'exerçons pas le gouvernement, mais nous le jugeons. Au besoin même, nous l'exécutons. C'est ce qu'on appelle notre esprit révolutionnaire. Que voulez-vous ? C'est l'esprit d'un peuple que rien n'a préparé à être libre et auquel tout défend d'être esclave. D'abord, un fier souvenir laissé par les castes, ce sentiment d'honneur dont parle Montesquieu, qui tient les hommes debout, même les courtisans en face du roi. Ensuite, la propriété du sol entre tant de mains qui cessent par là d'être des mains serviles. La culture des esprits, très ancienne et très répandue, avec des fruits qui ne sont pas seulement la diffusion, mais le progrès de la science. Par-dessus tout, la gloire à chaque page du passé. C'est la gloire qui fait l'âme d'un peuple. Une société qui a le sentiment de sa grandeur n'est pas faite pour tenir dans la main d'un homme et pour subir un pur despotisme. Royauté française, royautés nouvelles et improvisées qu'on reverra peut-être, car tout arrive. Soyez modeste et méfiante de vous-même. De grâce, n'écrivez pas que vous êtes inviolable. Le temps est passé des fictions et des privilèges. On vous violera parce que vous ferez des fautes, et vous en ferez parce que le gouvernement est une occasion, une nécessité de faillir qui accable son homme, fût-ce un roi, étiqueté héréditaire, perpétuel, pour régner à jamais, lui et les siens, de mal en mal, par ordre de primogéniture. Vous me direz que ceci est la voie des révolutions pleines de crimes et de catastrophes. Non, c'est simplement l'école française des peuples et des rois, où les uns apprendront peut-être la virilité, où les autres perdront peut-être leur infatuation. Chapitre 6. De l'égoïsme humain comme obstacle général à la liberté, laquelle est le gouvernement par les gouvernés. Il en coûte cher pour instruire ainsi les peuples et les rois. Les uns y laissent quelquefois leur couronne, les autres y subissent toujours une terrible épreuve, un ravage en quelque sorte, des mœurs et des fortunes. Mais, comme dit Sylla, quel que soit le prix de cette noble liberté, il faut le payer aux dieux. Sans phrase, rien n'est difficile comme la liberté politique, laquelle n'est pas moins que le gouvernement par les gouvernés. Voilà le problème. Ajoutez que les gouvernés sont des égoïstes, que tel est le fond humain, le péché originel de l'humanité. De sorte qu'il s'agit de demander à des égoïstes la répression de leur propre égoïsme. Y êtes-vous ? Sentez-vous comme les complications croissent à vue d'œil? Encore n'ai-je pas tout dit. La liberté, étant donné le suffrage universel, c'est le gouvernement livré à tous ces égoïstes, dont la plupart sont ignorants et besogneux, à tous également et indistinctement. Est-ce à dire que ce soit le gouvernement entre les mains des esclaves? Un ancien, Scipion ou Aristote, en jugerait ainsi et se voilerait la face à l'idée de ce que les esclaves vont faire de leur maître. Si, du moins, ces affranchis comportaient et connaissaient quelque chose comme un frein, comme une règle pour les contenir, en même temps que pour les affranchir. Je ne vous promets rien à cet égard. J'entrevois, au contraire, un dernier trait par où nos révolutions sont hasardeuses entre toutes et ne ressemblent à rien de connu parmi les événements de ce genre. Ailleurs, en effet, chez les Allemands et chez les Anglais, les révolutions étaient à base et à fin religieuse, ce qui est une source de révolution bien propre à les modérer. Il y a peut-être là de quoi mettre une règle, une limite à ces ébranlements qui ont l'immoral par l'imprévu, qui étonnent et accablent les consciences par l'épreuve des nouveautés. Quand les hommes veulent être libres dans l'ordre religieux, c'est-à-dire dans une chose qui est une répression morale, une discipline, ils revendiquent, dans quelque sorte, le droit d'accomplir leur devoir, de le définir tout au moins. Ils en professent à coup sûr la notion et le souci. Tout autre sont nos révolutions, avec une origine et un but d'ordre positif qui se rapporte à des biens moins élevés. Il ne faut pas dire pour cela que la France est irreligieuse, car nul pays ne prend plus de plaisir aux grands hommes. Or, pour les aimer, il faut y croire, et cela est autrement difficile que de croire en Dieu. Cela suppose une puissance de foi et d'illusion bien supérieure à celle qui se déploie dans le champ du surnaturel. Il ne serait pas plus exact de dire que l'esprit révolutionnaire de la France s'en est pris à la religion. Il n'était dirigé que contre l'Église, et cela parce que l'Église faisait partie des pouvoirs publics d'autrefois, parce qu'elle s'était encadrée dans le régime féodal, parce que, même à la fin du siècle dernier, l'abbé de Saint-Claude avait des serfs et faisait valoir ce servage. Retenez ce mot qui explique bien des choses. Nous a-t-on assez reproché cette fameuse déclaration des droits de l'homme, avec omission de l'article « devoir ». Reproche mérité sans doute, mais enfin, le droit était ce qui nous manquait le plus et la chose à proclamer le plus haut. Les religions et les gouvernements nous avaient fait une leçon surabondante de règles, de compressions et de contraintes. Comme l'individu en était écrasé et broyé, on peut dire que relever l'individu était la chose urgente et, pour ainsi dire, unique. À ce titre, la Révolution de 1789 fut un événement de même valeur que l'invasion des barbares. Elle apporta la définition du droit humain, tandis que les barbares en avaient apporté le sentiment confus, l'instinct puissant, bref, ce qu'on appelle aujourd'hui l'individualisme. Donc, cette déclaration était nécessaire, bien avisée, bien décrétée. Mais enfin, le tempérament et le frein n'apparaissent nulle part en nos révolutions. Qui dit révolution, dit par cela même une abolition des règles reçues et des pouvoirs établis, un déchaînement des instincts, une rupture des traditions. D'où il suit qu'elle court grand risque d'être malfaisante et corruptrice, si elle ne porte pas dans ses fins et dans ses impulsions quelque chose de religieux pour suppléer à tout ce qui tombe, à tout ce qu'elle détruit de barrières morales ou extérieures. Tel lecteur pourrait se rappeler qu'au moment de telle révolution, il était peut-être sur le bord d'une mauvaise action et que la révolution éclatant, il l'a commise, il a franchi l'obstacle de sa conscience, il a cédé à l'attrait de l'abîme, parce qu'une révolution, encore qu'elle touche au pouvoir seulement, a l'air de toucher à tout, d'emporter et de renouveler tout, sonnant aux oreilles une fanfare de licence et d'impunité. Si, du moins, la religion accordait à ces grands mouvements une certaine considération et se mettait en peine de la morale nouvelle, des préceptes nouveaux qui s'y appliquent. Mais point. La religion, procédant ici comme une secte, comme un parti, réprouve tout d'une réprobation absolue.